Bonjour à tous, vous êtes bien sur Phil FM en compagnie des 3e D avec Adèle
et Sophie pour vous présenter le journal en direct.
Aujourd'hui, le chômage en France, ça ne s'arrange pas au sommaire.
En revanche, Hollande et Merkel, ça semble aller mieux.
Du nouveau dans l'affaire Tapi et Bettencourt.
À l'international, la Syrie, la Libye et les conflits persistent.
Et pour commencer, Clément et Antoine, où en est-on au chômage en France ?
Eh bien malheureusement, pour tous les travailleurs français, le chômage atteint des sommets. François Hollande a tourné la page de sa première année de mandat et reste confiant pour la courbe du chômage qui s'inversera avant la fin de l'année. Mais l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, prévoit une augmentation du chômage jusqu'en 2014. En effet, le record de chômage a été encore battu. Le chômage augmente sans cesse. En avril 2012, il y avait 2 902 700 chômeurs, alors qu'en avril 2013, il y avait 3 264 400 chômeurs, soit une augmentation de 12,5% de chômeurs pendant l'année. Mais François Hollande reste confiant et sûr d'une amélioration prochaine. Il veut défendre sa politique et l'emploi de ses méthodes et de compromis social.
Merci Clément. À présent, parlons de l'un des principaux sujets du moment, le duo Angela Merkel-François Hollande. Jeanne, est-il vrai que les tensions entre ces deux chefs d'État s'apaisent ?
Oui Adèle, Angela Merkel et François Hollande présentent leur vision d'avenir de l'Union européenne. La chancelière allemande a rejoint le président français à Paris pour l'entretenir de quelques sujets européens, le jeudi 30 mai. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, c'est la première fois qu'un tel aparté se produit, malgré quelques rencontres auparavant. C'est à Leipzig que la tension a diminué entre nos deux pays, entre deux chefs d'État, et qu'une confiance réciproque s'est installée. À présent, ce n'est ni avec le Royaume-Uni, ni avec la Pologne qu'Angela sortira la zone euro de la crise. Et plus, à force d'entendre François Hollande parler de compétitivité, elle semble assez convaincue que le président français veut vraiment réformer la France, ce qui n'était pas le cas au début de l'année. Les élections allemandes sont programmées dans 4 mois, et ces deux chefs d'État ont compris et ont intérêt à travailler ensemble et à bien s'entendre. Mais ils ne sont pas encore d'accord sur certains points, comme l'énergie ou bien les réformes du marché du travail. Beaucoup de désaccords sont encore présents. Angela Merkel va-t-elle être réélue ? Si oui, les deux chefs d'État vont-ils améliorer les conditions de nos pays et de l'Union européenne ?
Il semblerait que Jean-Marc Ayrault ait repris du poil de la bête. Anna, à toi.
Oui, il a pris du poil de la bête, constate Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le coordinateur de la majorité, c'est lui, reconnaissent les socialistes, qui en quelques semaines ont assisté à la mise sous tutelle du premier secrétaire et à la reconnaissance du premier ministre, en partie grâce à François Hollande. Ayrault doit en effet apparaître crédible aux yeux du peuple et des députés de la majorité pour conduire avec sérénité et légitimité la politique réformiste voulue par le chef de l'État.
Merci à toi, Anna. Rebondissement dans l'affaire Tapi. Un juge a été mis en examen. Virgile va nous en dire plus.
Aujourd'hui, Bernard a-t-il fait Tapi ? En effet, le juge choisi pour l'arbitrage de Bernard Tapi en 2008 a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée.
Le juge connaissait apparemment l'avocat de Bernard Tapi avec qui il a entretenu des relations professionnelles. Cette dernière information a été confirmée par les plus hautes autorités.
Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde ont été les initiateurs du tribunal arbitral qui a rendu le jugement en faveur de M. Tapi. Christine Lagarde a d'ailleurs été entendue cette semaine et déclarée témoin assisté.
Une grande figure politique est touchée. En effet, l'ex-président avait rencontré le milliardaire une douzaine de fois entre juin 2007 et novembre 2010, selon l'Express. La relation Tapi-Sarkozy a été minimisée. Bernard Tapi a d'ailleurs déclaré « Je ne suis pas l'ami de Sarkozy ».
François Bayrou s'est exprimé sur ce sujet et il a affirmé que l'État devrait se porter partie civile. C'est ce qu'envisage Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie.
Nous en saurons plus dans quelques jours, mais nul doute que cette affaire va faire un grand bruit.
Merci Virgile et Thomas. L'affaire Bettencourt, 4 ans qu'elle a commencé, et la procédure vient d'être suspendue. Rita va nous expliquer pourquoi.
En effet, Sophie, le juge Jean-Michel Gentil a commis l'erreur de choisir Sophie Grombe pour déterminer l'état de faiblesse de Madame Bettencourt. Le problème est que le juge et le médecin sont amis.
Ce qu'a fait le juge Gentil, c'est une erreur de jugement. Oui, mais ce n'est pas une erreur juridique, nous dit un magistrat. Il reste toutefois que cette cacophonie ne créait un vice de procédure, ce qui obligerait à refaire toute l'instruction. L'affaire Bettencourt n'est donc pas une affaire classée.
Ah, les affaires n'en finissent plus.
Et maintenant, dans une période de crise où de nombreux Français cherchent à faire des économies, quelques conseils pour réduire votre facture d'énergie.
Économie de chauffage pour commencer. Baisser la température des pièces 1 degré de moins, de 20 à 19 degrés, permet une économie de 7%. De même, pour l'eau chaude sanitaire, 55 degrés suffit. N'oubliez pas de choisir des robinets qui permettent d'éviter le gaspillage de l'eau et de faire la chasse aux fuites d'eau. Les chasses d'eau à double débit permettent des économies substantielles, sans oublier les petits gestes tels que mettre des couvercles sur les casseroles, dégivrer le réfrigérateur et penser à éteindre les lumières.
Puisqu'il est question d'économie et d'électricité, n'oubliez pas de bien choisir l'électroménager en fonction de leur performance technique et environnementale. Pour vos radiateurs, il faut les équiper d'un robinet thermostatique qui permet de maintenir la température choisie. Enfin, pensez à surveiller la charge des batteries, à éclairer avec des lampes basse consommation, à éteindre les veilles sur vos différents appareils, ordinateurs, télé.
Cela demande un peu de vigilance et de responsabilité, mais vous vous y retrouverez au niveau de votre porte-monnaie.
Merci pour tous ces conseils, les garçons. Nous allons maintenant nous intéresser à l'international, en commençant par la situation en Syrie. Agathe et Mathilde, la parole est à vous.
Effectivement, les conflits syriens s'aggravent. Ils débordent hors de ses frontières, notamment au Liban. Depuis le début des révoltes en Syrie, en mars 2011, les combats parfois meurtriers se multiplient aux frontières nord et est du Liban, en particulier à Arsal, où fuient de nombreux réfugiés et les combattants opposant au régime de Bachar al-Assad. À Tripoli, les violences de ces derniers jours entre pro et anti-Assad ont fait plus de 30 morts en une semaine. On soupçonne le Hezbollah libanais, allié du président Assad, d'être responsable de ces attaques. Autant de signes inquiétants d'une possible contagion des conflits.
De plus, Bachar al-Assad a récemment admis implicitement avoir reçu des missiles sol-air de son allié la Russie. Par ailleurs, l'opposition refuse de participer à une conférence internationale de paix, tandis que les combattants du Hezbollah chiite libanais, alliés du régime syrien, combattent avec l'armée dans la ville de Kousser, un lieu stratégique car proche de la frontière libanaise, en se préparant à attaquer cette ville reprise à 80% par les loyalistes. Évoquons maintenant les tristes crimes de guerre qui se multiplient tant du côté de l'opposition que de celui du régime. Le président de la commission d'enquête sur la violation des droits de l'homme et haut diplomate de l'ONU brésilien, Paulo Sérgio Pinheiro, pense que même si les crimes sont identiques chez les deux parties, ils sont plus nombreux pour le régime. Il déclare également qu'au vu de l'impossibilité de distinguer les rebelles djihadistes des rebelles démocratiques qui deviennent de plus en plus minoritaires, ce serait une mauvaise idée d'envoyer des armes aux opposants.
Après la Syrie, passons à une situation alarmante, celle de la Libye. Kamardine, c'est à toi.
La France envisage une action militaire contre les terroristes d'ACNI qui se sont réfugiés au Liban. En effet, les djihadistes recrutent à nouveau et cherchent à se réorganiser en profitant du chaos qui règne en Syrie. Le pays est désorganisé par une loi qui organise l'épuration des actuels dirigeants du pays qui ont participé au régime de Kadhafi avant d'entrer dans l'opposition de Kadhafi. Les services de renseignement soupçonnent les djihadistes d'avoir organisé les attaques contre l'ambassade française à Tripoli et le site minier d'uranium de la société française à Areva, au Niger. Le gouvernement français prépare une intervention contre les bases djihadistes en Syrie, mais la façon d'intervenir n'a pas encore été arrêtée. De plus, les Français ne veulent pas agir seuls et sont en discussion avec les autorités libyennes pour obtenir le feu vert à une intervention sur leur sol, ainsi qu'avec les États-Unis pour obtenir leur aide, notamment pour obtenir la fourniture des drones.
Merci Kamardine. À présent, écoutons Myriam et Mélissa nous parler des Femen et de leur retour dans l'actualité.
En Tunisie, Amina Sbouy est la première femme à avoir posté sa photo seins nus sur la toile.
Une question, pourquoi ?
Comme vous le savez, la Tunisie est divisée. Une partie de la population est moderniste et laïque, et l'autre partie est plus conservatrice et islamique. Ces femmes ne veulent tout simplement pas vivre dans une république islamique qui les priverait de leurs droits.
Alors, pour choquer volontairement les fondamentalistes, elles exposent leur poitrine pour provoquer. Cette mesure extrême fait penser à celle des Pussy Riot à Moscou.
Merci à vous les filles pour cet article éclairant.